Ça fait à peu près même plus de 30 ans qu'on parle d'égalité des chances, que ce soit à l'université ou ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui d'égalité active, ce qui revient à peu près pareil. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le constat d'un échec de 30 ans de politique d'égalité?
Je veux bien essayer de répondre à cette question difficile, mais oui, il y a des constats d'échec. Égalité active, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose qu'égalité des chances. Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité des chances? Et ce mot actif, il n'est pas là juste comme ça pour faire joli. Il est là pour traduire ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que nous ne pouvons pas être passifs face à cette situation. Et que nous devons inventer les réponses. C'est-à-dire que les éléments, je dirais, théoriques de l'égalité, j'en donne quelques-uns. L'université est ouverte à tous les bacheliers. C'est un élément théorique d'égalité. Est-ce pour autant que tous les bacheliers peuvent aller à l'université? La réponse est non. Est-ce pour autant qu'ils y vont? La réponse est non. Donc nous avons, et là je pense que c'est un changement, en tout cas pour l'université Paul Sabatier, c'est une ligne force. Je considère que nous devons aller vers les jeunes. En parallèle de cette commission égalité active que j'ai créée à l'université Paul Sabatier, j'ai aussi créé une charge de mission pour un vice-président chargé des relations avec les établissements scolaires, qui travaille avec le rectorat. Nous sommes en train de travailler sur une convention cadre avec le rectorat. Nous développons beaucoup d'actions avec les établissements pour aller dans les lycées, les collèges, pour en accueillir, évidemment pour former les enseignants. Voilà, nous considérons que nous devons être vraiment très actifs. Et ça s'inscrit dans un constat que j'évoquais tout à l'heure. Vous parliez de la question de l'égalité des chances, 30 ans de politique d'égalité des chances. On peut dire qu'il y a eu des hauts et des bas quand même. Si on regarde la question de l'accès au baccalauréat, le baccalauréat a stagné pendant certaines périodes, a augmenté beaucoup pendant d'autres périodes. Ça a été la politique mise en place sous le ministère de Jean-Pierre Chevènement avec l'objectif d'atteindre 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Il y a eu une augmentation forte au cours des années 80-90, suivie d'une stagnation. Et nous avons une stagnation depuis des années. Le taux d'accès au baccalauréat, grosso modo, stagne. Bon. Je ne parle pas du taux de réussite annuel. Hein. Ça dépend aussi combien de candidats y a-t-il au sein d'une classe d'âge. Je vous parlais de l'accès à l'enseignement supérieur. On a eu des périodes de véritable massification de l'enseignement supérieur. Les années 90, par exemple, qui ont vu de manière très importante augmenter le nombre d'étudiants et augmenter le nombre de bacheliers qui accédaient à l'enseignement supérieur. Nous avons depuis 2005 une régression, que j'ai appelée la récession étudiante. Depuis 2005, le taux de bacheliers, les bacheliers généraux, qui accèdent à l'enseignement supérieur a baissé. Vous faites une boucle, je le vois, et vous avez du mal à le croire. Ça paraît incroyable.
Non, excusez-moi, on n'est pas du tout dans la question. Vous avez un certain... Vous avez tenté, disons, de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de monde qui accède à l'université. Ça a été... Bon, les bacheliers à gogo, on ne sait pas très bien quel est le niveau du bac aujourd'hui par rapport au certificat d'études avant. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des étudiants qui se retrouvent... il faut dire les choses comme elles sont. Caristes dans un établissement de Toulouse, et on en a. Il y en a un qui est éboueur actuellement, deux ans après le bac... Il y a un petit problème quand même. Bon, ça, c'est un point. Bon, et puis un autre point, l'accès à l'université, c'est pas uniquement avoir la chance de pouvoir y accéder, c'est avoir les moyens de pouvoir y être. Quand on doit partir à Toulouse, parce qu'il n'y a pas tout ici, on doit partir à Toulouse, qu'on sort d'une famille difficile, avec quels moyens on peut le faire? On doit faire un stage, partir ailleurs, comment on peut le faire? C'est des études longues. Est-ce que là, il n'y a pas un petit problème, en sachant qu'à la sortie, on n'a pas forcément du boulot?
Je voudrais, si vous me permettez, je vais dire une chose. C'était avant les vacances, c'était un beau cadeau de Noël. Le Monde a fait une enquête qui montrait que l'université Paul Sabatier était numéro 1 sur le taux d'insertion professionnelle. 95% des diplômés de master avaient un emploi 30 mois après leur diplôme. Et en réalité, quand on regarde, la durée médiane d'accès à l'emploi était d'un à deux mois. C'est-à-dire que la moitié des étudiants, un, deux mois après leur diplôme, avaient déjà un emploi. Donc, je me permets de répliquer ça parce qu'on dit beaucoup de choses, et c'est vrai que vous trouverez toujours des cas individuels, et ils sont terribles. de gens qui ont un niveau d'emploi qui n'est absolument pas à la hauteur de la formation qu'ils ont eue, etc. Et il faut effectivement travailler à ça. Mais quand même, en moyenne, ça marche très bien. Et le diplôme est une protection. Et je pense qu'il faut vraiment le répéter, parce que dans un moment et dans des milieux qui sont confrontés à un chômage massif, on le sait aussi que c'est un discours, après tout, pourquoi s'embêter, de toute façon, c'est le chômage notre seul avenir. Non, ça n'est pas le seul avenir, ça n'est pas vrai. Avoir un diplôme, en général, il y a toujours des cas particuliers, mais en général, c'est une protection, et c'est bien pour ça qu'il faut aider ces jeunes. Et vous avez dit des choses qui me semblent importantes, et vous avez insisté sur la dimension territoriale. C'est Cyril Corbouchot le disait tout à l'heure. Et oui, bien sûr, tout le monde, c'est difficile d'aller faire des études dans une grande ville universitaire, ça coûte cher, tout le monde n'a pas les moyens, et c'est pour ça qu'il est essentiel pour nous de développer de la formation dans les territoires, de la formation qui n'est pas de la formation au rabais. C'est de la formation de très haut niveau. D'où le DJUT Génie Civil, qui va apporter une dimension supplémentaire à, aux différentes formations qui sont faites ici, qui sont de très haut niveau, hein, à Tarbes. Et c'est vraiment une vision que nous avons aujourd'hui qui est forte, qui est portée par le Conseil régional à travers les contrats de site également, et divers moyens pour qu'on puisse offrir des possibilités de développement. Mais c'est y compris sur des filières générales, j'en citerai une, hein, si vous me le permettez, qui est la licence de physique, qui est la licence de physique de l'UPS, qui se fait pour l'essentiel à Toulouse, dont un groupe se fait à Tarbes, avec des personnels du Pic du Midi qui viennent, et avec une orientation vers le spatial, l'environnement, hein, des spécialités thématiques du Pic du Midi, et ce qui est un univers qui est très intéressant, un projet... Il va falloir que je m'arrête, parce que sinon j'aurai bien trop de choses à faire, mais le projet pédagogique dans que nous défendons dans le cadre du prochain CPER, d'une plateforme pédagogique d'accueil des jeunes au Pic du Midi, justement. Voilà tout ça. Sur les territoires aussi, on peut faire des choses qui sont formidables, on en fait au quotidien. Il s'agit maintenant d'arriver à faire rencontrer les publics. Cette offre qui est là, ces publics qui ne sont pas toujours suffisamment là, j'évoquais la licence de physique tout à l'heure, pas pour rien. Quand j'ai pris la présidence, on n'avait que 20 étudiants par an. Voilà, on a augmenté 50% en un an. Bon, on est passé de 20 à 30. On peut faire encore mieux.